Paul avait un fort désir, et cela animait sa prière, que les croyants qui habitaient dans la ville de Colosse connaissent la volonté de Dieu. Waouh ! Beaucoup de gens se demandent, mais quelle est la volonté de Dieu pour eux ? Et c'est effectivement une question pertinente. Si Paul le demande dans sa prière, on comprend que c'est parce que c'est quelque chose qui peut être accordé. Bonne nouvelle, donc ce matin, si tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, non seulement c'est une bonne question, une question légitime, mais tu peux faire comme Paul, demander à Dieu et avoir l'assurance qu'il te répondra. Et Paul demande bien plus que cela. Il demande qu'il soit rempli de la connaissance. Ça indique une abondance, une plénitude, une complétude dans la connaissance de la volonté de Dieu. Alors quand on évoque ce sujet-là, de la volonté de Dieu, la direction divine, la question qui se pose le plus souvent, c'est « Mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Et que pensez-vous que Dieu veut que vous fassiez ? On s'interroge sur le « quoi faire ». Imaginez une personne qui vient de se faire baptiser, et puis elle se dit « Bon, ben, je vais me mettre au service de Jésus maintenant. » Bon, bonne idée. Et quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Je vais m'impliquer dans le parcours alpha, faire partie de l'équipe de bricolage ou celle qui s'occupe des enfants, m'engager dans une œuvre sociale dans le monde. Voilà, donc quand on pense à la volonté de Dieu, en général, on pense au quoi faire. Quoi faire ? Quoi faire ? Nous y reviendrons. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Alors, je voudrais vous partager ce matin deux ou trois idées un peu clés que j'ai glanées cet été dans mes lectures, en étudiant, en documentant, en écoutant des enseignements sur tous ces sujets. Je voudrais d'abord parler de nos choix, de nos décisions. Parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui, elles déterminent ce que nous serons demain. C'est tellement important. Nos décisions comptent tellement. Et qui es-tu aujourd'hui ? Ben, tu es le résultat des décisions que tu as prises dans le passé. Qui vas-tu devenir ? Que vas-tu accomplir ? Pour la plupart, ça sera le résultat des décisions que tu prendras aujourd'hui. Alors soyons honnêtes, certains d'entre nous n'ont pas une grande faculté à prendre des décisions. Et peut-être encore moins à prendre des bonnes décisions. C'est compliqué de prendre une bonne décision. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent du mal à choisir. Ou alors, des fois, je choisis mal, ou pour des mauvaises raisons. Il y a beaucoup de choses dans notre société qui nous poussent à faire des choix importants sur la base d'une émotion temporaire. Par exemple, la pub. Elle vous fait ressentir un sentiment de bonheur si vous achetez ce baril de lessive. Ou cette voiture. On est conditionné. Nous prenons nos décisions sur une émotion plutôt que de vraiment penser aux choses que ça implique. Et donc nous prenons des décisions et puis il nous arrive de les regretter après. Alors je vais vous donner plusieurs exemples, mais ne vous sentez pas visé. Peut-être regretterez-vous d'avoir fréquenté quelqu'un. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière. Ou un gros achat qui vous a endetté. Mais j'aurais jamais dû me laisser tenter. C'est peut-être un déménagement que tu regrettes. Pour d'autres, c'est peut-être d'avoir à nouveau passé du temps sur un site porno, et puis juste après, tu le regrettes. Pour d'autres, c'est avoir bu deux ou trois verres de trop à une soirée, puis tu as fini complètement out, et tu le regrettes. Nous finissons par regretter tant de choses, tant de nos choix et de nos décisions. Alors certains, en ce moment, peut-être parmi nous, ont des décisions importantes à prendre. Tu es fraîchement diplômé, qu'est-ce que je vais faire ? Je continue mes études, je cherche un travail, je pars faire le tour du monde. Certains d'entre vous sortent avec quelqu'un. Bon, la personne est plutôt bien, mais il y a quand même des choses importantes qui vous gênent. Est-ce que je dois rester avec cette personne ? Ou est-ce que je dois en attendre une autre ? Qui viendra peut-être pas. dans le domaine du travail. Et si je postulais à ce nouveau poste? Bon, je ne sais pas trop ce que ça a donné. Ou alors je reste à mon job actuel. Est-ce que je dois acheter une nouvelle voiture plus puissante ou je garde l'ancienne un an de plus? Devrions-nous avoir un troisième enfant? Ou alors on prend un animal de compagnie? Je ne sais pas ce qui vous préoccupe en ce moment. Mais beaucoup d'entre vous ont des décisions importantes à prendre. Et vous avez besoin de connaître le conseil de Dieu. Vous avez besoin d'une direction divine. Alors cet été, donc, je me suis un peu documenté sur ces sujets, la décision, les choix et la volonté de Dieu dans tout ça. Vous savez, il y a beaucoup d'études en ce moment sur les générations. Il y a eu les baby-boom, après la génération X, puis la génération Y, maintenant la génération Z, les millennials, je ne sais pas comment on dit ça. Hein, c'est ceux qui sont nés dans les années 2000. Ben, ils ont 21 ans cette année. Et pourquoi il y a toutes ces études? Parce que l'évolution de notre société, la technologie, les modes connectés, ça a tellement changé les habitudes, les modes de vie, que ben, on est un peu perdu. Et donc ça impacte aussi énormément notre manière de prendre les décisions de notre vie. Alors on parle beaucoup de la génération des millennials. Moi j'aime bien cette génération. Il y a beaucoup de points positifs. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on observe que cette génération, elle a beaucoup plus de mal à faire des choix, à s'engager, à prendre des décisions que les générations précédentes. Alors les chercheurs, les sociologues, etc., ils ont fait des recherches pour comprendre. Et une des raisons majeures, c'est que cette génération a beaucoup plus d'options, de possibilités que toute génération précédente. À mon âge, quand tu avais passé ton bac, bah soit tu allais travailler, soit tu faisais des études. Éventuellement, tu casais le service militaire quelque part. Maintenant, il y a tellement de choix. Tu as l'université en ligne, une année sabbatique à l'étranger, faire le tour du monde en woofing, démarrer une entreprise, devenir influenceur sur YouTube. Peu importe ce que c'est, il y a tellement d'options différentes. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à prendre une décision. Et je le comprends. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, nous avions les codes de Netflix, grâce à notre fille, à un de nos fils. Je ne vous dis pas lequel. Et sur Netflix, vous le savez, il y a tellement de possibilités. Alors un soir, moi je me dis, ah, on va regarder un bon film comique. Et puis j'ai passé en revue une bonne centaine de films pour le choisir, parce que je voulais prendre le meilleur film comique. Je ne veux pas un petit film moyen, quoi. Et j'ai toujours pas trouvé ce meilleur film. Ça m'a agacé, j'étais frustré. Au bout de 45 minutes, j'ai tout arrêté, j'avais perdu mon temps, j'avais pas regardé de film. J'ai éteint la télé en bougonnant. Voilà, la génération Netflix, elle a tellement d'options qu'il est très difficile de prendre une décision. Et on a peur de prendre une décision imparfaite. Et au lieu de prendre une décision imparfaite, ben on ne prend pas de décision. Et c'est souvent une pire décision que de prendre une décision imparfaite. Nous avons besoin d'une direction divine. Alors ce matin, je voudrais vous partager deux idées clés sur ce sujet. Alors évidemment, c'est un sujet très vaste et l'heure et demie qui est devant nous ne me permettra pas de tout aborder. Non, ça va, il ne s'agite pas trop. Je ne vais pas tout dire sur le sujet. On n'a pas le temps, mais ça sera peut-être l'occasion d'autres fois. Mais ce matin, je voudrais vous proposer deux idées clés, deux fondations, deux idées bibliques importantes dans ce sujet. La première idée fondamentale, c'est la réponse à cette question. De quoi Dieu se soucie-t-il? Alors c'est la première idée clé. Dieu se soucie du qui avant du quoi. Dieu se soucie de ton être plutôt de ce que tu fais, du faire. Dieu se soucie de qui tu es avant de se soucier de qu'est-ce que tu fais. Quand il s'agit de la volonté de Dieu, Dieu se soucie davantage de ton caractère, de ta personnalité, de qui tu es, avant de se soucier de qu'est-ce que tu vas faire. On voit ça par exemple dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, c'est un verset qui nous dit « Quelle est la volonté de Dieu ?» Car voilà la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous soyez saints. Dans d'autres versions, hein, c'est votre progression dans la sainteté, que vous soyez saints, que vous deveniez toujours plus saints. Alors moi, je veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Est-ce que c'est que je sois fleuriste, comptable, missionnaire, agent de sécurité ? Bon, c'est pas ce que dit la Bible. Peu importe. La volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois saint, comme il est saint, comme Dieu, notre Père, est saint, que je sois à la ressemblance de mon Père. Ça nous a été rappelé ce matin dans les pensées. La volonté de Dieu pour toi concerne davantage qui tu es que ce que tu fais. Le mot grec qui donne le mot sanctifié, saint, ça veut dire mis à part. Ça veut dire être différent. Cela concerne notre vie intérieure, notre caractère, notre personnalité. Si tu es un disciple ou une disciple de Jésus, tu es appelé à ne pas ressembler aux personnes du monde à l'intérieur, à ne pas être guidé par les mêmes valeurs, à ne pas vivre pour ce que ce monde temporaire juge important. Tu es appelé à devenir semblable à Jésus, à son caractère, à sa personnalité. Alors, mettons les choses au point, être semblable à Jésus, ce n'est pas faire ce qu'il a fait. Il n'y a que Jésus qui a été appelé à sauver l'humanité en mourant sur la croix. Toi, non. Être semblable à Jésus, c'est devenir conforme à son caractère, à sa personnalité. Devenir conforme à l'image de Jésus. Alors bien sûr, c'est un but tellement élevé qu'on ne l'atteindra peut-être jamais sur cette terre, mais c'est une direction que nous prenons. Nous avançons dans cette direction avec le soutien de l'Église et du Saint-Esprit. Nous nous dirigeons vers Jésus. Nous devenons petit à petit davantage comme lui. En fait, si vous regardez Jésus et son enseignement dans les évangiles, il ne parle jamais de la carrière des gens. Il parle de l'intérieur des gens. Nous sommes appelés à devenir comme lui. Alors la question qu'on se pose généralement quand on évoque la volonté de Dieu, c'est « qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Mais une meilleure question, c'est la suivante, c'est « qui Dieu veut-il que je devienne ?» Qui Dieu veut-il que je devienne ? Dieu se soucie davantage de qui je suis plutôt de qu'est-ce que je fais. Pour Jésus, qui tu es compte beaucoup plus que ce que tu fais. Alors supposons que je prêchais un superbe message aujourd'hui, mais que je suis méprisant envers ma famille ou mes collègues de travail à cause de mon mauvais caractère. Ben, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Supposons que je sois un super leader charismatique ultra connu. Alors ce n'est pas le cas et ce n'est pas mon ambition. Et que je fais beaucoup de choses formidables. Mais que je triche avec les impôts, par exemple, ou que je ne suis pas sérieux dans mon mariage. Ben, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que devant Dieu, qui je suis compte davantage que qu'est-ce que je fais. Alors comment ça pourrait s'appliquer ça à chacun de nous ? Est-ce que je reste dans mon job ou est-ce que je change de travail ? Peu importe. Sois un fidèle disciple de Jésus là où tu es. Si tu penses à un métier pour plus tard, dois-je étudier la finance internationale ou devenir instituteur ? Quoi que tu choisisses, demande-toi avant tout, où est-ce que tu pourras servir Jésus et devenir davantage semblable à lui ? Au lieu de simplement dire « qu'est-ce que tu veux que je fasse à l'avenir, Jésus ?» demande-lui plutôt « qui veux-tu que je devienne dans le présent ?» Commence par le « qui » et le « maintenant ». La direction divine, c'est que nous soyons conformes à l'image de Jésus. Pas à pas, nous le suivons, et c'est le plan de Dieu que nous devenions davantage comme lui. Alors, ça implique que nous soyons d'accord avec ce projet de Dieu pour nous. De quoi Dieu se soucie-t-il ? Quelle est la volonté de Dieu ? Elle concerne d'abord le qui avant le quoi. Alors la deuxième idée clé concernant la recherche de la volonté de Dieu, c'est le pourquoi avant le quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le pourquoi, ce sont les motivations, ce qu'il y a au fond de nous, ce qui nous fait nous mettre en mouvement, ce qui nous bouge. Et les motivations, elles comptent pour le cœur de Dieu. Alors il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Moi, je voudrais par exemple prendre Proverbe 16, verset 2. L'homme estime toujours que sa voie est pure. Celui qui pèse les esprits, c'est le Seigneur. Nous, on a toujours l'impression que ce qu'on fait, ben, c'est bien. Hein ? Nous avons l'incroyable capacité de nous tromper nous-mêmes, de nous raconter les choses en couleur. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est juste, mais c'est le Seigneur qui juge nos motivations, les intentions intérieures, les arrière-pensées, les motivations. Ce qui nous met en mouvement, ça compte pour Dieu. Alors vous savez, parfois on donne une raison pour quelque chose. Donc il y a les raisons dont on parle, et puis il y a les vraies raisons au fond de nos cœurs. Les motivations, ça compte. Je prends un exemple. Les enfants savent très bien y faire. Imaginez dans une famille, la fille va voir son papa et lui dit « Oh mon papounet, je t'aime tant mon papa, j'ai envie de me blottir contre toi. Tu es mon papounet chéri, je t'aime papa, etc. etc. » Et puis à la fin, elle lui dit « Eh mon papounet, tu serais d'accord qu'on adopte un chaton ?» Vous voyez les motivations, ça compte. Vous connaissez cette prière aussi du psaume 139. Examine-moi à fond, ô Dieu, connais mon cœur. Sonde-moi, connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Moi, je ne sais pas vous, mais des fois, ça me fait peur de me rendre compte de mes vraies motivations. Parce qu'elles sont souvent impures. Si je prends le temps d'être vraiment honnête, c'est assez horrible pour moi de voir combien des fois mes motivations sont plus centrées sur moi égoïstement que sur le Christ ou les autres. Examinez vos motivations. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Vous allez acheter une voiture? Pourquoi? Pourquoi? Il y a une méthode bien connue en management, c'est les 5 pourquoi. Pourquoi on donne une réponse, pourquoi cette réponse, etc., pour aller au fond des choses. Vous achetez une nouvelle voiture bien chère. Est-ce que c'est parce que vous avez vraiment besoin de ce nouveau moyen de transport fiable, ou est-ce que c'est pour épater votre entourage? Si vous complimentez quelqu'un, est-ce que vous êtes sincère, ou est-ce que c'est que vous voulez qu'il pense du bien de vous? Quand vous faites une remarque à quelqu'un, est-ce pour l'encourager à progresser ou juste pour décharger votre colère? Il y a tant d'autres exemples. Quelles sont nos motivations? Et pour faire des choix, prendre des décisions sur la volonté de Dieu, le pourquoi compte, les motivations avant le faire. De même que le qui je suis avant le « qu'est-ce que je vais faire ?». Alors Paul, il a écrit à plusieurs endroits, de manière très simple et très puissante. « Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» On a la réponse dans Colossiens 3, 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, ça englobe quoi ? Ben tout. Quoi que vous fassiez, alors que vous soyez un salarié lambda ou que vous dirigez une entreprise, que vous soyez un étudiant, un professeur, un éducateur, quoi que vous fassiez, que vous soyez à la retraite, dans la vie active, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, dans les faits. Alors nous sommes appelés à faire tout au nom du Seigneur Jésus. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Peut-être on pourrait dire c'est de sa part. Ou alors on pourrait dire aussi, c'est comme si vous le faisiez pour lui. Vous voyez, ça oriente. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Servez Christ là où vous êtes. Alors certains se disent, bon, moi je suis au lycée, je suis étudiant, mais j'ai des grands projets. Un jour je vais faire quelque chose de grand pour Dieu. Eh bien, sois fidèle dans les petites choses, et puis tu pourras en faire des plus grandes. Alors le mot fidèle, de nos jours, on pourrait le traduire par d'autres adjectifs. Sois constant, sois sûr, sois loyal. Mais peut-être le mot qui reprendrait d'avant le plus le terme de la Bible, ça serait le mot fiable. Sois fiable. Sois fiable dans ton service. Quand tu fais quelque chose de petit, fais-le bien avant de t'attendre à envisager quelque chose de grand. Sers Jésus là où tu es. Un jour, je serai missionnaire à l'étranger. Eh bien, commence par être missionnaire là où tu es, dans ta classe, dans ton lycée, dans ton entreprise. Sois fidèle, sois fiable. Sers Jésus là où tu es, dans ta vie ordinaire, fidèlement, plutôt que de toujours penser à plus tard où tu feras hypothétiquement des choses extraordinaires. Quand les gens regardent quelqu'un qui a réussi, ils font souvent une erreur. Ils se disent « Ah, cette personne, elle a réussi parce qu'un jour, elle a pris une grande décision qui a changé toute sa vie. » Ça, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui, chaque jour, prend des milliers de petites décisions qui vont dans le bon sens. Quelqu'un qui fait les petits choix de tous les jours de manière fidèle. Et c'est ça qui fait une différence pour Dieu. Il y a d'innombrables décisions chaque jour à faire. Et ces décisions, on les fait pour suivre Jésus ou pas. C'est ça qui fait la différence. Décider de vivre selon Dieu dans notre quotidien. C'est le qui suis-je avant le qu'est-ce que je fais. Le pourquoi avant le quoi. Lorsque nous faisons les choses avec de bonnes motivations, Dieu nous conduit pas à pas vers les bons résultats. Dieu nous appelle à cela. Donc tant de gens se posent la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Un meilleur point de départ, c'est qui Dieu veut-il que je devienne? Pensez à Jésus. Pensez à Jésus. Pensez à ce qu'il a enduré, aux gens qu'il a rencontrés et qui l'ont apprécié, qui l'ont suivi, et aux gens aussi qui l'ont détesté, qui l'ont poursuivi, qui l'ont haï, qui l'ont torturé brutalement, au-delà de toute mesure, et qui ont fini par le tuer avec des clous. Comment pensez-vous qu'il a enduré tout cela? Pourquoi pensez-vous qu'il n'a pas appelé les anges du ciel pour venir le libérer? Il savait qui il était. Il savait pourquoi il était venu. Qui était-il, le Fils de Dieu? Dieu venu en chair et en os ici pour apporter la liberté et la vie. Pourquoi est-il venu? Pas pour être servi. Dieu est fait homme, est venu pour servir les humains. Il est venu donner sa vie en rançon pour les autres. Il savait qui il était. Et ça a déterminé qu'est-ce qu'il a fait. Alors peut-être avez-vous l'ambition de faire quelque chose de grand à l'avenir pour Dieu. Ben, c'est très bien, mais ça commence aujourd'hui. Soyez qui Dieu vous appelle à être dès aujourd'hui. Faites quelque chose de petit aujourd'hui, parce que quand vous êtes fidèle pour un petit peu, devinez quoi, Dieu vous fera confiance pour un peu plus et pour beaucoup. Sachez qui vous êtes. Un enfant de Dieu. Et peut-être, ce matin, quelqu'un parmi nous n'est pas encore enfant de Dieu. Ben, tu peux le devenir ce matin, en offrant ta vie à Dieu. Rappelez-vous, la volonté de Dieu, c'est plus devenir une personne semblable à Jésus que de faire quelque chose. C'est devenir quelqu'un maintenant plutôt que de faire quelque chose plus tard. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour cela? Quoi que vous fassiez, qui que vous fréquentiez, où que vous viviez, quel que soit votre travail, votre statut actuel dans la vie en ce moment, quoi que vous fassiez, faites tout cela pour la gloire de Jésus. Déjà. Ne vous inquiétez pas de qu'est-ce qu'il faut faire, mais inquiétez-vous plutôt de qui vous êtes, ici et maintenant. Je vous invite à prier. Père, Père céleste, nous te demandons aujourd'hui de nous aider à comprendre quelle est ta volonté pour nos vies et pour notre communauté. Tu connais les personnes parmi nous qui ont des décisions à prendre. Et nous voulons te dire, avant de me concentrer sur le quoi faire ou le quoi décider, je veux te donner, mon Dieu, la permission de travailler sur qui je suis, mon caractère, ma personnalité, et sur le pourquoi, mes motivations. C'est facile de te dire « qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ?» Nous voulons faire une pause, nous arrêter et dire d'abord « qui veux-tu que nous devenions ?» Nous te donnons l'autorisation, Père, de nous rendre conformes à l'image de ton Fils, de nous faire avancer d'un pas pour être davantage semblables à lui. Aide-nous, Père Céleste, notre Dieu, à nous détacher de ce que nous faisons et à nous concentrer plutôt sur notre caractère, notre personnalité, le qui je suis, pour que je devienne une personne selon ton cœur. Partout où il y a du péché, de la duplicité dans ma vie, partout où il manque le fruit de l'esprit, je t'apporte tous ces domaines de ma vie et nous demandons la guérison, nous demandons pardon, nous demandons que nous portions du fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fiabilité, la maîtrise de soi. Père, nous te demandons de venir sonder nos cœurs et nos motivations pour que nos motivations soient justes et que nous vivions pour toi dans tout ce que nous faisons. Je te prie, Dieu, je te donne l'autorisation de venir transformer ma vie, transformer mon cœur aujourd'hui, pour que tu me rendes semblable et conforme à l'image de ton Fils Jésus. Donne-nous de devenir pas à pas, jour après jour, chacun et en communauté, davantage plus proche de ton Fils, de devenir davantage comme lui. Amen.